Immersion.
Un reportage de Radio Présence.
Mais comment faire pour être heureux ?
Traduction de dernier ?
Oui.
Alors que depuis plus de 3 semaines, la guerre en Ukraine se poursuit et ne cesse de s'intensifier, des manifestations de soutien, manifestations populaires, se multiplient un peu partout en Europe. Dimanche dernier, nous étions dans les rues de Toulouse. Parti du quartier de Saint-Cyprien, le cortège, après un hommage rendu à Anne de Kiev, dont la statue orne le parvis de Saint-Pierre-des-Cuisines, arrivait place du Capitole.
Je ne me suis pas présentée, je suis désolée au début. Donc nous sommes un collectif Ukraine Libre Toulouse. Donc, je suis une des coordinatrices de ce collectif. Et maintenant, donc, je donne la parole à Natalia Zouzouk, qui est également une des coordinatrices de ce collectif qui va ce soir devenir une association.
Bonjour à vous, chers Toulousains et Toulousaines. Cela nous réchauffe le cœur de vous voir ici tous unis pour une cause juste. Je veux rappeler pourquoi nous sommes là. Pour soutenir l'Ukraine dans sa lutte, pour sa souveraineté et la liberté. Pour soutenir le peuple ukrainien dans l'épreuve qu'il subit. Et pour interpeller nos élus ici en France pour les actions suivantes. Fermer l'espace aérien au-dessus de l'Ukraine, afin que les bombardements russes des villes et des hôpitaux cessent.
Alors oui, le président ukrainien a dit « descendez dans les rues » et voilà, il faut qu'on soit dans les rues, il faut qu'on y soit tous, parce que moi je ne pouvais pas faire autrement. Si c'est tout ce que je peux faire pour le moment, ben voilà, au moins, voilà.
Oui, c'est déjà... ça, c'est marcher ensemble. C'est vrai.
Voilà, tout c'est à fait. Mais bon, moi, j'écoute, mais je voudrais être active, parce que là, à la télévision, on est passif et on entend, et puis ça boue, au fond de soi, ça boue, quoi.
On se dit, c'est une petite goutte d'eau, mais...
Voilà, les petites gouttes d'eau, ça fait c'est ce qui fait les rivières, les grandes rivières.
Nous passons au-dessus voilà. De la Garonne, là, d'ailleurs.
Ce que j'ajouterais peut-être, c'est qu'on vient de se sortir d'une guerre bactériologique qui est en train de s'apaiser, de s'atténuer. Bon... Le monde commençait à retrouver un petit peu.
À nouveau. Ouais.
Voilà, et il n'y a rien à faire, quoi. C'est montrer qu'on n'a pas peur, aussi.
Selon l'ambassade d'Ukraine en France, environ 40 000 personnes d'origine ukrainienne vivent dans notre pays. La majorité d'entre elles sont les descendants des ouvriers et travailleurs agricoles venus en France après l'une ou l'autre des deux guerres mondiales du XXe siècle. Des émigrés politiques déplacés et aujourd'hui des étudiants forment également cette diaspora. Quelques milliers vivent dans notre région. Le conflit soudain et fulgurant lancé au cours de ce mois de février a resserré leurs liens et a favorisé l'émergence d'associations ou de collectifs comme celui de l'Ukraine Libre Toulouse. D'autres, notamment l'association Yaroslavna, sont plus anciens. Devant Saint-Pierre-des-Cuisines, tout à côté du bus d'Anne de Kiev, une jeune femme vend des t-shirts Yaroslavna.
Qu'est-ce qu'on peut aider en deux mots
Médicaments, alimentation pour bébé, nourriture.
Bref, je vous contacterai
Sauf vêtements.
D'accord, pas de vêtements, médicaments surtout, si j'ai bien compris.
Vous pouvez trouver liste sur la page Yaroslavna.
Merci.
Merci. Je parle français un petit peu aussi, je peux pas expliquer. C'est...
Qu'est-ce que ça veut dire, Yaroslavna?
Yaroslavna, c'est Anna Yaroslavna qui était princesse de Kiev, qui vient en France et qui était femme de...
Ah, c'est Anne de Kiev, d'accord.
Oui, c'est ça.
C'est Anne de Kiev, d'accord. Le soutien des Toulousains, il ne faiblit pas? Toutes les semaines, il y a des manifestations ici.
Oui.
C'est important le soutien de tous les Toulousains.
Mais c'est très important pour tout le monde, je pense. Maintenant, manifestations partout, de toutes les villes qui font aide, qui disent qu'ils sont avec nous. Et c'est très important pour les gens ukrainiens et c'est vraiment très important pour nous.
Vous êtes nombreux ici à Toulouse?
Oui, ici, beaucoup de gens ukrainiens et beaucoup de gens russes qui aussi aiment ukrainiens, qui n'aiment pas le régime de Poutine et qui comprennent bien comment ça marche. Mm. J'ai habité à Donbass et je viens ici depuis 2014, quand commence la guerre, quand la Russie commence la guerre à Donbass. Je suis allée ici et ma fille, j'ai deux filles, mon mari et la mère de mon mari qui habitent ici. Et hier, ma fille aînée qui vient de Kiev avec sa copine. Et pour notre famille, c'est la deuxième fois cette cauchemar de la guerre.
Bonjour.
Créée en 2005 à Saint-Benoît-de-Carmo dans le Tarn, l'association franco-ukrainienne Bereginia, du nom d'une déesse ukrainienne à l'origine de la vie, regroupe une cinquantaine de personnes d'origine ukrainienne. Quelques jours plus tard, je rencontrais chez elle sa présidente, Okskana Boutka. Les traits un peu tirés, elle ne dort plus guère. Le regard bleu azur empreint de tristesse, d'inquiétude et de révolte, elle m'accueille pourtant chez elle avec une totale disponibilité. Et ce, en dépit des coups de téléphone incessants, des carmousins et autres qui viennent déposer des colis pour l'Ukraine, en dépit de la présence de sa nièce et de sa petite fille et de sa petite cousine, arrivée depuis quelques jours à peine de Zaporijja. Pour sa part, arrivée en France à 22 ans, en 1993, Okskana, qui a fait, comme elle le dit, sa vie d'adulte ici, du côté d'Albi, a reconstitué chez elle un petit bout de terre ukrainienne.
Je vois, il y a de nombreux objets. Il y a des œufs.
Des œufs de Pâques ou des œufs qui. Ça se fait beaucoup, c'est peint. Chaque fois, quand on partait en Ukraine, on amenait un souvenir. Et je pense qu'il me faudra acheter une autre vitrine. Donc c'est un peu des petits souvenirs de chaque voyage qu'on amène pour garder, parce que bon, c'est que c'est pas à la porte à côté. Et...
Un petit bout de...
C'est un petit bout de pays ici, qu'on amène en France, et finalement ce bout commence à prendre un peu le terrain, il y en a un peu partout, mais bon.
Voilà. Vous avez toujours de la famille en Ukraine?
Oui, j'ai mon frère qui est en Ukraine. Mon neveu, ma belle-sœur, mes cousins, cousines. Bon, ma maman, maintenant, elle vit avec moi. La plupart du temps, elle était en Ukraine cet été, elle est rentrée en octobre. Et après, j'ai mon frère, qui est militaire, donc il est là-bas.
Oui, votre mari me disait qu'il était sur le front.
Oui. Donc, il n'est pas vraiment sur le front directement, il est dans la ville, il surveille la sécurité dans la ville.
Il est dans quelle ville, c'est le...
Zaporijja. C'est la ville qu'ils ont montrée récemment avec la centrale nucléaire. Et moi, je suis originaire de Zaporijja. Donc, j'ai mes nièces qui sont arrivées, elles sont originaires de là-bas aussi. Elles sont arrivées, parce qu'elles ne pouvaient plus rester. Elles ne voulaient pas partir pour une simple raison qu'elles ont leur maison là-bas, elles ont leur vie. Personne n'a envie de quitter et partir comme ça, n'importe où. Partir où, ce n'est pas facile. Hein, c'est laisser toutes tes affaires, toute ta vie que tu avais. Et donc, j'ai une nièce et la petite cousine qui sont là. Et j'ai une autre nièce qui est en route. Qui est en Pologne en ce moment.
Et ici, donc, vous vous organisez pour les accueillir. Bon, c'est votre famille. Il y en a d'autres qui vont arriver peut-être aussi.
Oui, je pense qu'on n'est pas... Ça ne fait que commencer, à mon avis. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, il y a tous les Ukrainiens qui sont arrivés à la frontière polonaise et ils essaient de s'installer pour le moment dans les pays les plus proches. Mais tôt ou tard, je pense qu'ils vont quand même... vouloir peut-être rentrer, enfin, s'avancer peut-être dans d'autres pays comme la France, au Portugal ou l'Espagne. Hein. Parce que la Pologne, même s'ils accueillent gentiment les gens...
Les Polonais ne peuvent pas accueillir,
ils peuvent pas faire des miracles non plus. Donc ça, malheureusement, mais on n'est pas à l'abri de tout ça.
Et qu'est-ce qu'ils vous disent, là, votre famille? Ils ont peur, ils sont révoltés, ils sont prêts à résister? Ils ont des sentiments qui sont très, très mêlés.
Ce que je veux dire, en globalité, tous les Ukrainiens, ils sont prêts à se battre jusqu'au bout. Parce que la résistance qu'on a aujourd'hui en Ukraine, il y a très peu de pays qui ont eu une résistance comme ça dès le départ. Je pense que les 8 ans de la guerre, elle a forgé les caractères, elle a changé aussi la vision sur la Russie. Elle a changé aussi la vision sur beaucoup de choses. Et maintenant, les gens ils sont conscients que si on ne défend pas le pays aujourd'hui, on n'aura plus d'Ukraine. On n'aura plus le droit de mettre le pied. Moi-même, je ne sais pas si un jour ça devient Russie, je n'irai jamais chez eux, jamais de ma vie. Et c'est ma terre natale. On est tous bouleversés. Il y a beaucoup de gens qui ont peur. Il y a beaucoup de gens qui sont stressés. Ils restent en espérant que ça s'arrangera. Le jour où ça tire pas, on se dit un jour de plus de calme. D'ailleurs, à Kiev, il y a des gens qui disent que quand ça tire pas, ça les bouleverse aujourd'hui, ça les inquiète.
On se demande qu'est-ce qui va arriver.
Voilà, et ça les inquiète. Ils sont tellement maintenant pris l'habitude de vivre sous les bombes que... ils ne comprennent pas ce qui se passe. Mais après, ils sont très déterminés. Les Ukrainiens sont très, très pacifiques. C'est un peuple accueillant, joyeux, mais il ne faut pas les énerver beaucoup. Et on peut énerver un peu, on fera rien. Mais là, là moi, je ne vois pas comment on peut appeler ça, à part la guerre, surtout venant de la Russie, ce qui est très, très compliqué parce qu'on a beaucoup de familles mixtes. On a beaucoup de gens qui sont partis travailler en Russie, les Ukrainiens. Il y a les Russes qui habitent en Ukraine. Donc, comment vivre avec ça? Comment partager cette vie? Je sais que les Ukrainiens, ils savent faire la part des choses. Et ils vont pas... C'est pas parce que t'es russe. Moi, à moitié, je suis russe. Mais mes grands-parents étaient russes, donc, pour vous dire. Je crois que je suis vraiment l'image le plus... russophone, parce que j'ai parlé toute ma vie en russe, mais je parle l'ukrainien aussi très bien. Et en plus, moi, je dis à moitié russe, donc, mais ça ne m'empêche pas d'aimer mon pays, d'être ukrainienne. Moi, j'ai choisi ma nationalité. Voilà. Et c'est pareil pour tous les gens qui vivent là-bas. Ils sont très patriotes et ils ne voient pas de quel droit ils vont laisser leur maison, leur terre qui leur appartiennent à quelqu'un qui a décidé en claquant des doigts qu'il va le reprendre. Et parce qu'il a des armes, que tout est permis. Donc ça, non, là, cette fois-ci, c'est plus les accords de Minsk, c'est plus les pièges qu'ils nous mettaient pendant des années. Là, les gens, ils en ont marre. Ils veulent quelque chose de clair, de déterminé et de net. Et donc, à part cette guerre qu'ils ont entamée, je vois pas d'autres solutions que se battre.
Pour mettre un terme à ce conflit, Okhtsana ne croit pas du tout en la diplomatie. Son seul espoir repose dans la victoire de l'Ukraine, son pays natal, qui est rassemblé derrière son chef et prêt à lutter jusqu'au bout pour conserver son indépendance acquise il y a 30 ans, en 1991. 30 ans, l'âge de ces jeunes générations qui n'ont connu que l'Ukraine libre et qui sont prêtes à donner leur vie pour sauvegarder leur souveraineté et leur identité.
Oui, parce que je pense que Poutine, il a perdu un peu de temps et il a laissé grandir cette génération. La génération de gens qui ont connu que l'Ukraine indépendante. L'Ukraine, telle qu'elle, il y avait des défauts, il y avait des qualités, mais dans leur tête, ils sont nés déjà avec l'esprit d'un pays indépendant, avec un esprit pro-européen, avec un esprit qui veut se développer, avec un pays qui... Oui, cette génération, elle peut plus, elle acceptera plus un retour en arrière. C'est pas possible. On a vécu trop sous le rideau soviétique à en faire. On était trop coupés de monde. Ma génération à moi, moi j'ai grandi dans l'ex-Union soviétique, avec aussi le lavage de cerveau à la façon soviétique. Donc, et quand tu ouvres les yeux, quand tu vois, tu découvres certaines choses, tu découvres l'histoire autre que ce qui a été enseigné par rapport à ton pays, il ne fera pas penser autrement que ce qu'on pense. Il ne nous imposera pas son point de vue. Tout simplement. Mmh. En tout cas, aux gens qui ont envie d'apprendre et connaître. Après, ceux qui ne s'intéressent pas, ben, c'est comme des agneaux, et ben, comme des moutons, ben, ils suivront le troupeau. Mais heureusement qu'il y en a beaucoup qui soutiennent l'Ukraine et qui sont très, très, très patriotes.
Vous me dites que vous avez des grands-parents russes, que vous êtes russophone vous aussi. Bon, vous avez vécu avant la période de l'indépendance. Il y a des grosses différences culturelles entre les deux populations russes et ukrainiennes. Qu'est-ce qui vous différencie ?
Alors, bon, déjà la langue. Oui. C'est la langue slave, je veux bien. On a des bases slaves. Nous, pour les Ukrainiens, c'est facile parce qu'on comprend les deux. Oui. Mais ça m'est arrivé de parler aux Russes en ukrainien. Même quand j'étais à l'école, il y avait les écoliers qui venaient de Russie. Enfin, ils ne comprenaient pas tout ce que nous on disait ou tout ce qu'on affichait, par exemple, dans les journaux. La culture... Il y a quand même un mélange de cultures parce que, voilà, c'est deux pays frontaliers. Il y avait forcément beaucoup de voyages, des gens qui prenaient les recettes d'un côté pour les faire dans un autre. L'Union soviétique a fait que les gens, ils étaient pas mal mélangés, ils voyageaient beaucoup pour le travail, tout ça. Donc, l'influence, on a quand même une base, je ne vais pas mentir, on a une base commune. Il ne faut pas nier ça. Mon grand-père, elle m'a appris de faire des choses russes. Ma grand-mère ukrainienne m'avait appris de faire... C'est toujours enrichissant.
C'est la richesse du partage.
Voilà, c'est ça, toujours une richesse que j'ai en plus. Mais ce n'est pas pour ça qu'on peut se permettre de dire que c'est la Russie.
Mm-hmm. Voilà. Et l'identité ukrainienne est bien enracinée aujourd'hui.
Voilà. L'identité ukrainienne, c'est bien forgé. Et aussi... Justement, quand vous voyez vos soldats qu'on vous amène pour enterrer, les cimetières complets avec les morts, quand vous voyez les blessés, parce que nous, on a accueilli les blessés de la guerre à Lourdes, je vous garantis que c'est pas du tout... On peut pas rester indifférent. Donc, c'est là... On commence à comprendre qu'est-ce que c'est, le prix de l'indépendance et le prix de la liberté. Parce qu'au départ, l'Ukraine, elle est devenue indépendante et soi-disant indépendante, parce qu'il y avait quand même toujours le bras de Moscou qui était un petit peu sur les dirigeants et compagnie, et le député et compagnie, sur les grosses fortunes et tout ce qu'on a en Ukraine. Mais c'est là qu'on a compris qu'il n'y a qu'avec... en défendant vraiment notre terre, qu'on va devenir indépendant. Parce que quand ça arrive trop facilement, les gens, je pense qu'ils n'avaient pas pris conscience de ce cadeau qu'on avait et que tout ce qu'il fallait faire pour rester indépendant. Ça, c'est venu, c'est resté, on était contents, on disait on est un pays indépendant et démocratique, ça s'arrête là. Et on n'a pas prêté attention de tout le travail pro-russe qui était forgé et fait dans les hauts placés, dans le gouvernement, dans les administrations et dans l'armée aussi, d'ailleurs. Et c'est quand on a vu à quoi on a affaire et on était devant le mur et on a compris qu'on ne peut plus retourner en arrière, c'est fini, il faut qu'on avance. On a perdu des vies, on a perdu des milliers de jeunes garçons, on a perdu des hommes qui ont laissé leur fiancé, leur maman, leurs enfants. C'est le malheur pour ces familles, si tu le souhaiterais à personne. Et c'est le prix.
Ils sont morts pour...
Voilà, ils sont morts pour ça et continuent à mourir. Ils continuent à mourir aujourd'hui. Mmh. Et en plus, tout ça, j'ai dit, en sachant que, bon, on est soutenu par l'Europe moralement et matériellement, voilà, on peut dire ça comme ça, c'est vrai qu'on est conscient que la Troisième Guerre mondiale, ça n'arrange personne. Mais ce n'est pas parce que l'Ukraine, si demain l'Ukraine tombe, ce n'est pas pour ça qu'elle ne commencera pas la Troisième Guerre. C'est malheureux, mais c'est comme ça.
Oh.
Vous m'avez parlé de Lourdes. Là, je vois sur les œufs de Pâques, il y a sont des icônes du Christ. Vous êtes gréco-catholique ou orthodoxe ?
Alors, moi, je vais vous expliquer parce que moi, personnellement, je suis orthodoxe. Mais je vais à l'église gréco-catholique. C'est un peu compliqué pour moi. Après, je ne sais pas comment vous dire ça. Je suis née à Zaporijje, c'était une ville où on n'avait que deux églises pour 1 million d'habitants. Ma grand-mère, elle était chrétienne, russe, mais très très croyante. Elle était orthodoxe. Et donc, quand j'étais petite, eh bien, on voulait pas, on allait avec elle à l'église parce que c'était le jour de messe. Et elle nous gardait pendant les vacances scolaires. Et donc, elle nous prenait, elle a traversé toute la ville avec ses petits-enfants, mon frère et mon cousin et moi. Et donc, on voulait pas, on était à la messe. Chez nous, à l'époque soviétique, il fallait surtout pas dire à l'école que tu vas à l'église. Mon papa, qui était militaire, il fallait surtout pas qu'on sache qu'il a baptisé ses enfants. Enfin, c'était très, très tabou. Et dangereux, il pouvait perdre sa place, on nous aurait fait le lavage de cerveau. Donc, c'était quelque chose de... Il fallait que ça reste discret. Donc moi, j'étais baptisée quand même à l'église par ma grand-mère. Elle a insisté pour que je me baptise. Même ma maman, avant le mariage, elle l'avait baptisée. Elle a dit, moi, je ne veux pas le mariage si tu ne te baptises pas. Donc elle a fait ça en cachette, elle s'est arrangée avec le prêtre. Et donc j'étais baptisée dans une église orthodoxe. En arrivant ici, mon mari, il était catholique. Je me suis mariée à l'église catholique. Je ne suis pas une connaisseuse vraiment de beaucoup de différences entre les religions. Pour moi, les gréco-catholiques et les orthodoxes, on a à peu près le même rite. Enfin, c'est la même chose pour moi. Sauf que c'est une qui est en ukrainien et qui a un peu de différence quand même dans la messe. Mais je m'y retrouve, je me sens bien. Ça me fait plaisir que c'est en ukrainien. Et ça me fait plaisir aussi que ça appartienne pas au patriarcat de Moscou. Voilà.
Oui, bonjour. Je viens amener des colis, celle de perfusion, solution chlorure de sodium, d'accord, qui m'ont été données par la pharmacie Filiéris.
Ah,
voilà. Et hier, je suis venue aussi. J'ai amené, pareil, des kits pansements, beaucoup de pinces, des kits pour faire des points de suture qui m'ont été donnés par la polyclinique Sainte-Barbe.
Bon,
voilà. Et après, de la nourriture, tout ça, j'ai amené tout ça hier et voilà.
On va aller au dépôt, amener tout ça. Et...
Ok, ça marche. On y va.
Merci.
On a un dépôt que la mairie de Saint-Benoît nous prête. Mais il y a aussi il y a bien d'autres mairies qui sont très solidaires qu'on a sollicité. Donc il y a beaucoup de mairies qui jouent le jeu.
Et justement, tous ces colis-là, aujourd'hui, ils sont acheminés vers la frontière, parce que les villes assiégées, on ne peut pas aller jusqu'à Kiev ni jusqu'à Mariupol. Comment ils sont distribués dans la population?
Non, à l'association, après chaque association fonctionne à sa manière. Moi, j'ai dit par rapport à ce que nous, on a fait, parce qu'on a déjà envoyé un convoi, c'est la façon de parler. Il y avait 3 fourgons qu'on a remplis la semaine dernière. Là, ils sont revenus de là-bas, je crois, hier soir. Nous, on le fait avec les gens qu'on connaît sur place. Ceux qui amènent le convoi, c'est les Ukrainiens. Avec les Français, mélangés, c'est des gens, voilà, c'est les gens qui sont dans l'association, ou des amis, ou des proches,
qui partent.
Qui amènent ça. Ouais. Nous, on le fait très discrètement, pour une simple raison, que des fois, les camions, ils se font attaquer. Donc, on a choisi cette façon de faire. C'est pas de très gros camions. C'est juste les camions un peu des comme utilitaires ou je sais pas comment ça s'appelle. Voilà. Et après, ils amènent tout à la frontière polonaise. À la frontière polonaise, entre la frontière de Pologne et l'Ukraine, ils ont fait comme une zone où tu peux rentrer avec aide humanitaire. Ils ont fait comme un couloir. Et tu peux décharger ton camion. Et les Ukrainiens, dans cette zone, ils peuvent venir et récupérer. Ça veut dire, ça les évite de traverser la frontière polonaise pour une simple raison. Si c'est les hommes qui viennent, ils n'ont pas le droit de sortir du pays. Donc, ils ont fait cette zone
Une voie, un couloir.
Comme un couloir pour justement décharger les camions et qu'eux, ils puissent les récupérer, les Ukrainiens. Donc c'est comme ça que ça s'est passé avec les trois camions qu'on a emmenés.
À l'heure où je termine le montage de ce reportage, la guerre s'intensifie, la situation humanitaire s'aggrave. Kiev est encerclé. Après 12 jours de siège, Mariupol se trouve sans eau, sans gaz, sans électricité, sans communication. On y voyait ces derniers jours des gens se battre pour de la nourriture. Une situation quasi désespérée, alertée Médecins sans frontières.